général Joinville, chef d'état-major général des forces françaises de l'intérieur, vous parle.
Vu de l'étranger, l'insurrection nationale a eu un caractère de soudaineté qui l'a rendue mystérieuse, difficile à comprendre et à classer. Elle prenait les allures d'un mirage, même aux yeux de nos alliés. En nous fournissant des armes, ils espéraient obtenir la coupure d'un certain nombre de voies de chemin de fer et l'incendie de quelques dépôts ennemis, mais n'osaient pas prévoir le soulèvement de tout un peuple. Villes et montagnes, vallées et bourgs, le pays commençait à bouger. Une partie des armes de l'armée de l'armistice, le parachutage de matériel anglais et américain et les récupérations sur l'ennemi permirent l'intensification de la lutte. Dans des régions entières, la vie n'était plus tenable pour le Boche qui se recroquevillait dans quelques centres fortement protégés. Le jour tant attendu du 6 juin arriva. Avant toute indication parvenue du commandement allié, le COMAC et l'état-major national des FFI furent considérés que l'investissement de la Bretagne était imposé par la géographie. Le second objectif était également inscrit sur la carte. Il était évident que les troupes allemandes du sud-ouest devaient se trouver en état de moindre résistance. L'ordre fut donné de les attaquer à fond. Tout le centre prit feu. Une à une, les villes furent libérées. Tandis qu'à l'est du Rhône, les valeureux maquisards du Vercors, de la Savoie, des plateaux de l'Ain, s'apprêtaient en combattant à ouvrir la voie aux unités de l'armée française débarquées. Les attaques héroïques menées par les seules forces françaises de l'intérieur au sud de la Loire aboutirent un peu plus tard à l'encerclement et à la capture de plus de 20 000 Allemands. La bataille gagnait l'Orléanais, s'approchait de Paris. Le 15 août, le COMAC et l'état-major national multipliaient les appels au sabotage intensif. Des ordres étaient préparés qui devaient soulever la région parisienne au moment opportun. Des dizaines d'agents passaient les lignes, indiquaient l'importance des forces ennemies et l'emplacement des troupes alliées. Le 19 août arriva, les ordres furent donnés, et ce fut la bataille de Paris.
Les images sonores de cet album n'ont d'autre mérite que celui d'une authenticité absolue. Du 23 au 26 août 1944, elles ont toutes été enregistrées sur les lieux mêmes où le peuple de Paris combattait et mourait pour sa liberté. L'équipe qui réalisa ce travail était composée de 3 reporters, dont une jeune femme, d'un chauffeur et d'un opérateur. Elle a tenu à garder l'anonymat. Elle a suivi de son mieux les combattants à travers la bataille pour en rapporter ce témoignage. Elle vous prie d'excuser les imperfections techniques de ce travail. Elles sont dues aux circonstances particulières et quelquefois dramatiques au cours desquelles il fut réalisé.
Samedi 19 août 30. Nous sommes en ce moment devant la mairie des Batignolles, sur laquelle flotte depuis tout à l'heure le drapeau tricolore. Ce drapeau que nous n'avons pas revu depuis 4 ans. La foule crie sa joie, il chante la Marseillaise. Évacuent Paris. Par centaines, leurs camions bondés de bagages, de meubles, de tout le pillage qu'ils ont pu emporter ont défilé dans nos rues. La police est en grève depuis mardi. Ce matin, la préfecture de police, l'hôtel de ville et la plupart des mairies de Paris ont été occupées par la résistance. En fin de matinée, l'ordre de mobilisation générale des forces françaises de l'intérieur a été lancé. On l'affiche en ce moment même sous nos yeux. La résistance commence à attaquer un peu partout les Allemands dans Paris. Des accrochages plus sérieux ont déjà eu lieu place Saint-Michel, dans le 18e et à Neuilly. Samedi 19 août 16h30. Dans Paris, la bataille s'étend. On se bat dur à la mairie du 10e et autour de la préfecture. Ici, au Batignolles, la mairie et le poste de police sont barricadés, avec des sacs de sable et des plaques de tôle. Les effets fibres, à sarre tricolore au bras, ont mis maintenant le quartier tout entier en état de siège. De temps en temps, des camions allemands passent en mitraillant. Nous sommes maintenant dans la cour de la mairie des Batignolles. Une petite pièce à droite, en entrant dans la mairie, c'est le PC du commandant Désiré, commandant du secteur des Batignolles. Entrons.
Oui, c'est entendu. Comment ?
Voici le commandant Mercury, adjoint du commandant Désiré.
Qu'y a-t-il, monsieur ?
Excusez-moi, mon commandant, quelle est la situation dans le secteur des Batignolles en ce moment ? Ça a l'air de chauffer, on dirait.
Alors ça, vous pouvez le dire. Qu'y a-t-il de vos plus ?
Mon commandant me signale trois chars allemands venant de la place des Ternes en direction du boulevard des Batignolles. Que dois-je faire ?
Mettez un groupe de guetteurs au coin de la rue des Batignolles et de la place. Organisez un centre de résistance dans le garage Citroën au coin de la rue de Rome. Le reste de la troisième compagnie en petit poste. Le premier, devant le café de la Roulotte, à l'angle de la rue de Rome. Un autre au coin de la rue Bourseau. Un troisième au coin de la rue de Moscou avec des bouteilles d'essence, prêts à intervenir si les chars allemands avancent vers la place Clichy. Compris ?
Bien, mon commandant. Dès que tout est en place, je vous fais prévenir.
Eh bien, dites donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir du sport dans votre quartier.
Ah oui, vous tombez bien.
La première compagnie vient de prendre 25 friquets dans un camion. Qu'est-ce qu'on en fait ?
Dans la cour de l'école Truffaut avec 3 sentinelles. Vous avez pris des armes ?
Oui, 20 Moser, 15 mitraillettes, 10 parabellum, 2 caisses de grenades.
Bon, portez-les à l'armurerie. Distribuez des armes à la deuxième compagnie. Il y a des pertes ?
3 tués, 10 blessés.
Oui, ici les Batignolles. Ah bon ? Bon, ne quittez pas, je vous passe le commandant. Mon commandant, c'est Nogent, il m'en est renfort.
Allô ? Oui ? Du renfort. Demain. C'est entendu.
Ça va mal là-bas ?
Ben vous l'entendez. On va leur donner un coup de main. Demain, la première et deuxième compagnie partiront en camion.
Nous voici de nouveau dans la cour de la mairie. Le dispositif de combat est en train d'être mis en place. Les hommes se rassemblent. Quelques-uns ont des fusils, la plupart allemands d'ailleurs, des armes prises à l'ennemi. La grande majorité n'a malheureusement que des revolvers. Bien qu'il se passe quelque chose là-bas. Et oui, dans le bas de combat, les hommes courent, sautent dans des voitures qui démarrent, à fond de train. D'autres effets qui occupent les fenêtres et les barrages de sacs de sable. Oui, ça fait arrêt du côté de la rue de Rome. Attention, des gens courent. Un camion allemand, bougez-vous.
Lundi 21 août 1944, 22h. Nous sommes en ce moment à 26 mètres sous terre, dans une des gaz déchirées sur des grues et de catacombes qui forment sous Paris une véritable cité souterraine. Nous sommes descendus tout à l'heure par la Rue Saint-Cher et nous sommes en train de nous diriger vers le PC du colonel Roll, chef des effectifs de France. Ce PC est installé exactement sous le dur de Belfort, dans un abri de la défense passive que M. Tavet, chef du service des égouts de Paris, a mis à la disposition de la résistance sur l'ordre du général Dassault, gouverneur militaire de Paris et commandant militaire du Front National. Une énorme porte blindée barre la galerie. Oh, elle est colossale, elle est formidable cette porte. Qu'est-ce que c'est pour bruit de moteur qu'on entend avec ça ?
Ce sont les diesels pour la lumière et la ventilation.
Ah bon, oui, oui. Oh, mais la porte est énorme, la porte est colossale, ça a au moins 25 cm de largeur.
Oh, hein. même avec une grenade, il peut toujours venir.
Une grenade là-dedans, ça fait une piqûre d'épée sur un éléphant, oui, c'est formidable, formidable. La porte s'ouvre, nous entrons dans l'abri lui-même. C'est une impression extraordinaire, on se croirait dans la ligne Maginot. Une grande galerie centrale, voûtée, éclairée violemment, à droite et à gauche des portes métalliques qui donnent sur des pièces, le standard téléphonique, le réfectoire, des dortoirs, des bureaux. Ah, voici le bureau du colonel Roll.
Allô ? Allô ? Entrez.
Je m'excuse, mon colonel, nous sommes venus pour vous demander où en est la situation ce soir dans Paris.
Voici la situation. L'insurrection s'éteint, toutes les manœuvres de l'ennemi, trêve comprise, ont été déjouées, les défenseurs de la cité sont renforcés et constituent un centre de résistance inexpugnable dont les barricades forment les points d'appui principaux.
Bon.
D'autres barricades au nord et au sud, de l'hôtel de ville au boulevard Saint-Germain, en sont les ouvrages avancés. Depuis trois jours, rien qu'à la cité et place Saint-Michel, les Boches ont perdu trois chars et quantité de camions.
Ah, c'est magnifique.
Nous avons fait de nombreux prisonniers. La milice patriotique de Paris Soir a pris un char.
Ah, c'est formidable. Et en banlieue, mon colonel.
Des combats sérieux. Tenez, voyons la carte. Les forces occupent les mairies suivantes. Les Lilas, Bagnolet, Bondy, Drancy, Noisy-le-Sec, Pantin, Romainville, Montreuil, où s'est déroulé un dur combat. Pavillon sous bois. À Vincennes, nous avons attaqué le fort. Nous avons été repoussés la première fois.
Espérons qu'on vous prendra la prochaine fois. Et les alliés, où sont-ils exactement?
Ils se rapprochent. Les officiers ont établi la liaison avec eux. Hier, dans le sud, ils occupaient la ligne Bonaflay, Molle, Benne, Trappe, Arpajon. On s'est battu ce matin à Montlhéry. Les Allemands s'organisent défensivement dans la région, Vissous, Ris-Orangy, Juvisy, Fleury-Saint-Michel, Montlhéry. Il n'y a d'ailleurs qu'un faible rideau de troupes devant les Allemands.
Ah, il y a peu de monde. Et dans le cadre général de la bataille, mon colonel, quelles sont les buts tactiques de l'insurrection?
D'abord, empêcher la destruction de la ville en occupant, sans s'y accrocher coûte que coûte, les édifices et les centres vitaux. Empêcher la destruction des ponts qui germaient l'avance alliée. Attaquer l'ennemi partout où il va. Enfin, sauver Paris et sa population.
Et on le sauvera, mon colonel. Et l'armement?
C'est le point faible. Nous manquons d'armes, surtout d'antichars. Heureusement, notre tactique de la guérilla déconcerte littéralement le Boche.
Alors, confiance, mon colonel?
Plus que jamais. Tenez, voilà les ordres de la population parisienne que je viens de rédiger. Les FFI et la population ont engagé la bataille pour Paris. Chaque fois que nos soldats ont respecté la tactique mobile de la guérilla, ils ont écrasé l'adversaire. Cependant, un danger subsiste. Les mouvements rapides des chars ennemis. Ce danger est facile à conjurer. Il suffit d'empêcher les Boches de rouler. Pour cela, que toute la population, hommes, femmes, enfants, construisent des barricades. Que tous abattent des arbres sur les avenues, boulevards et grandes rues. Que les petites rues soient particulièrement obstruées par des barricades en chicane. Organisez-vous par maison et par rue pour garantir votre défense contre toute attaque ennemie. Dans ces conditions, le Boche sera isolé et cerné dans quelques sens. Il ne pourra plus exercer de représailles. Tout se barricade, signé Roll.
Eh bien, merci, mon colonel. Merci infiniment de votre accueil. Nous sommes place d'Enterre-Rochereau. La rue est déserte. Je viens de dire, je ne rien. Il ne se doute pas qu'ils viennent de passer exactement au-dessus du cerveau de l'insurrection.
Mardi, 22 août 1944, 14h. Nous sommes dans une maison de la rue d'Enfer-Rochereau, pas très loin du Val d'Ullier. Ça tiraille dehors autour du Luxembourg. Une petite pièce nue, meublée d'une table, de quelques chaises, c'est le lieu de réunion du comité d'action militaire, organe de commandement suprême des forces françaises de l'intérieur sur le territoire national. Les trois hommes, sur qui pèse la responsabilité de la bataille, sont là. Pierre Boudon, qui préside, Jean de Volvé, dit Vaillant, Maurice Criégel, dit Valrimont. Villon parle.
Maintenant que l'appel du CPL a été approuvé par le CNR et que les représentants civils et militaires du gouvernement s'y sont ralliés, voyons où nous en sommes. Vaillant, qu'est-ce qui se passe à Paris?
Eh bien, justement, j'arrive à l'instant du essai de l'état-major de Paris. Depuis hier soir, la bataille a repris partout avec intensité. Nos formations sont passées à l'attaque, notamment dans le secteur sud de défense de la cité, où ce matin encore, des chars ont été mis en déroute après de durs combats. Les hommes font preuve d'un mordant remarquable. On constitue des unités spéciales, de grenadiers anti-chars, qui s'attaqueront aux patrouilles Boches sur les quelques itinéraires qu'ils parcourent encore. L'ordre de dresser les barricades est exécuté partout.
Et toi, Vavrimont? Au PC de l'Île-de-France, tout va très bien. Les liaisons fonctionnent avec tous les départements et tous les groupes. Pour transformer Paris en souricière, pour isoler les îlots Boches, il faut obtenir une participation encore plus intense de la population. Je vous propose l'appel suivant. Les troupes alliées sont à proximité de Paris. L'ennemi traqué bat en retraite avec des débris d'unités démoralisées. Les forces françaises de l'intérieur se sont magnifiquement battues suivant l'exemple de la France entière. L'heure est venue de chasser définitivement l'ennemi de la capitale. La population tout entière doit se soulever, dresser des barricades, en passant hardiment à l'action, en finir avec l'envahisseur. L'heure de la libération définitive sonne. Français debout, tous au combat. Ça vous va?
Très bien, tout à fait d'accord.
C'est parfait. La participation à l'action défensive entraînera de nouveaux combattants dans l'action offensive. Ainsi, quelle que soit la date de l'arrivée des troupes alliées, la division Leclerc, nous créerons les conditions de l'extermination des îlots allemands.
Nous sommes en ce moment au pied de la butte Montmartre. Toute la population du quartier est dans la rue. L'appel aux barricades a été entendu dans toute la ville. À tous les coins de rue, à tous les carrefours, les barricades commencent à se dresser. Hommes, femmes, enfants, vieillards, tout le monde s'y est mis. En ce moment, on est en train d'abattre sous nos yeux des arbres. On dépave la chaussée, on renverse les kiosques à journaux, on enfouit de sable les sacs de la défense passive, les maisons sont vides de toute la ferraille disponible. Liquage, vieilles autos, voitures d'enfants, poubelles défoncées. La barricade explique ma barre maintenant complètement la rue sur toute sa largeur. Elle a déjà au moins un mètre de haut.
La première à droite, il y a une chicane.
Oui, tu pourras passer. Oui, ça va devenir vite, si tu les mettre dans Paris, ça va pas être facile.
Sortez-vous, vous allez friquer.
Attention, attention, débranchez l'autre micro. Non, 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 laissez celui-là. On s'attendait toute la journée à un raid allemand sur un garage qui est là à côté de nous et qui sert de fessier à un groupe de combat. Il semble bien que l'attaque soit en train de se déclencher. Ah oui, 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 on s'attire là-bas, juste à l'entrée de la ville. On voit des petites silhouettes grises qui viennent en longeant les murs. Mais oui, mais ce sont des boches. La barricade vient d'ouvrir le feu.
Mercredi 23 août 1944, 14h. Nous voici dans la cour de la préfecture de police qui depuis trois jours résiste à tous les assauts. La cour est pleine de voitures prises à l'ennemi, les défenseurs sont tous en civil, brassards tricolores au bras. Ah, voici M. Tabourin.
M. Tabourin, vous êtes, je crois, responsable de la compagnie idéale.
Oui, c'est exact.
C'est-à-dire que vous la commandez.
Oui. Alors, ça compose de 200 hommes. Il y en a une partie, enfin, la moitié se trouve à la cité, c'est-à-dire oui. Pour la préfecture, disséminée oui. Enfin, au créneau, etc. Et l'autre partie se trouve à l'intérieur du métro Châtelet pour éviter les infiltrations ennemies.
Oui, c'est ceux que nous avons vus et qui nous ont conduits jusqu'à vous.
Même.
Oui, et indépendamment de ça, alors.
Eh bien, j'ai constitué des groupes francs qui circulent dans Paris et qui attaquent l'ennemi pour récupérer des armes le plus possible.
Oui, vous avez eu des accrochages, oui.
Eh bien, il y a eu pas mal d'accrochages, oui.
Des pertes.
Il y a pas mal de pertes.
Mais vous circulez.
Beaucoup de blessés, surtout.
Des blessés. Et vous circulez, mais comment, les voitures que vous employez sont des voitures de la préfecture?
Il y a des voitures de la préfecture et des voitures de récupération.
C'est-à-dire des voitures...
Il y a des voitures de tourisme que récupèrent aux Allemands et des camions qui ont été récupérés. Il y en a environ une quarantaine dans la cour de la préfecture.
Une quarantaine pris à l'ennemi?
Ah ça c'est formidable, c'est ceux qu'on voit là. Enfin, c'est ça.
C'est ceux qui sont là, mais dites-donc, c'est déjà un beau butin ça. Et alors, vous allez loin les raids?
Eh bien, nous allons des fois jusqu'en banlieue. Il m'est arrivé d'aller à Vitry.
Ouh là, à Vitry?
Oui, et me trouver coincé, si je peux dire, dans une impasse.
Dans une impasse?
Oui. C'est-à-dire que nous nous trouvions du côté du Moulin Vert, je crois qu'on appelle ce coin-là. Oui. Et alors, nous avons été...
Coincés par les Allemands?
C'est ça même.
Eh bien, vous avez pu vous en tirer?
Eh bien oui, nous avons fait marche arrière rapidement et nous nous sommes trouvés dans la première rue du...
Eh bien écoutez, je vous félicite pour cette fois-là, vous avez eu de la chance, vous m'excusez, je suis obligé de vous quitter parce qu'on nous attend là-haut pour voir les prisonniers. Au revoir, monsieur Tabourin, mes compliments, bonne chance.
Nous sommes maintenant au second étage dans les anciens locaux des renseignements généraux où l'on garde les prisonniers allemands. Eh bien, ils n'ont pas l'air de gros en paix. Tenez, interrogez donc celui-là. Demandez-lui donc comment il a été pris.
Comment avez-vous été pris? Sur les voitures?
Oui, nous sommes vraiment passés devant le palais de justice avec deux voitures et on a tiré contre nous. Nous sommes descendus de voiture.
Oui, alors?
Nous sommes cachés dans une maison. Dans cette maison, il y a des soldats qui étaient blessés. On est monté dans un étage pour demander quelqu'un qui aide aux blessés. Oui. Oui. Et les policiers français sont arrivés de demander de nous rendre. Et après quelques échanges de balles, nous comprends plus.
Eh oui, qu'est-ce que vous voulez, chacun son tour, c'est la guerre. Toujours au second étage, au créneau qui commande le quai des Grands Augustins.
Alors, monsieur Resdorf, vous êtes responsable de la 6e compagnie de
circulation.
Vous commandez en somme la défense de tout ce côté-ci.
Oui. C'est ça.
C'est-à-dire, votre secteur va d'où à où?
Il part de la place Saint-Michel jusqu'au petit pont.
Ah bon? Oh, vous avez la place Saint-Michel dans votre secteur?
Eh bien, mes compliments, c'est un endroit chaud, ça.
Ah, ça, quoi, chaud, c'est chaud.
Oui, vous avez dû avoir du travail.
Ah, oui, hier, il y a un camion qui est arrivé, on a tiré dedans, il a pris feu, il y avait des Allemands dedans, il y en a eu pas mal d'appuyés de blessés. Il y en a juste un qui s'en est échappé, il est arrivé vers la barricade, les mains en l'air, en disant Autrichien, Autrichien, camarade. Alors, voyant ça, on l'a fait passer de l'autre côté de la barricade, et comme on avait des armes allemandes récupérées, qu'on ne connaissait pas le maniement, on lui a dit, montre-nous comment ça marche.
Ah, vous l'avez employé comme professeur?
Ça, c'est vraiment... Alors, il nous a montré comment ça fonctionnait.
Oui, sans discuter, alors, non, volontiers.
Ah non, volontiers, volontiers.
C'est très bien,
Il était content de sauver sa peau.
C'est magnifique.
Alors...
Après ça, qu'est-ce que vous en avez fait alors?
De lui, on l'a renvoyé à la préfecture de police ou à la disposition du préfet qui lui était chargé d'interroger pour savoir le moral des troupes qui passaient à Paris.
Oui, je comprends bien. Et alors, après ça, vous avez utilisé les armes du professeur?
Je comprends.
Oui, avec bons résultats.
Des résultats.
Bon, et bien mes compliments, continuez, merci.
Jeudi 26 août 1944, 21h, 6e jour de la bataille de Paris. On s'est battu toute la journée, les trois quarts de Paris sont libérés. Ça tire toujours dans l'obscurité, l'électricité est coupée partout.
Le téléphone fonctionne encore, heureusement.
Le canon des alliés se rapproche de plus en plus, des incendies embrassent tout l'horizon.
Dites donc, nous venons d'apprendre à l'instant par téléphone que les premiers soldats français sont signalés à Fresnes.
Ah,
c'est la division Leclerc. Quoi? Quoi?
Versailles ne répond plus au téléphone.
Oui, Versailles ne répond plus seulement. On nous signale de Saint-Cloud que les premiers Américains auraient dépassé Versailles et seraient aux environs de Garches. Il paraît que les Allemands, en ce moment, sont en train de miner toutes les rues du côté de Neuilly.
Ici, dans le secteur des Champs-Élysées, encore tenu par les Allemands, nous sommes installés à un balcon du 73 de l'avenue, dans les salons d'une maison de couture célèbre qui a fermé ses portes il y a 4 ans, le jour même de l'entrée des Allemands dans la ville. Rien n'a changé, nous avons juste une bougie pour nous éclairer. On voit vaguement des robes inachevées posées sur des mannequins, des coupons d'étoffe jaunis, des échantillons sur les tables. En somme, par une sorte de caprice du destin, nous allons assister à la délivrance de Paris, probablement dans le décor intact qui a vu il y a 48 mois commencer sa servitude.
La nuit est magnifique. Le ciel est criblé d'étoiles, une belle nuit d'été. L'arc de triomphe là-bas se détache en noir sur l'horizon rougi par les incendies. À sa gauche, un énorme panache de fumée noire qui a l'air de monter en direction de l'ouest.
Sud-ouest.
Ah oui, ça vient de Garches. Il y a des trains de munitions là-bas qui sont en train de sauter.
Tenez, la grande lueur là-bas, dans la même direction.
Attendez, je chronomètre. D'après le nombre de secondes, nous verrons à quelle distance sont les alliés. Et attention, éteignez les bougies, les Allemands tirent sur les fenêtres allumées.
Oui, les passants sont rares, évidemment. L'avenue est presque complètement déserte à cause du couvre-feu qui est fixé à 9h et toute personne prise dans la rue risque d'être fusillée sur place.
Attendez, voilà l'explosion, ça fait 21 secondes exactement, ça doit faire par conséquent
6 km.
6 km. En ligne droite, oui, les alliés sont exactement à 6 km de Paris.
D'ailleurs, ça confirme ce qu'on disait, ça doit être à peu près Garches.
Un peu plus tard, toujours au même endroit, la même nuit. Nous apprenons à l'instant qu'il vient d'arriver un message parachuté du général Leclerc. Tenez bon, nous arrivons.
Attendez.
C'est que ça là-bas sont des voitures?
Non, sont des chars, ça, sont des chars.
Ah oui, oui. Oh oui, oui, sont des chars allemands, ça. Ça vient de la Concorde. Il doit filer du côté de Pontoise.
Oh non, ça va à l'étoile. Regardez.
Ah oui, oui. Alors ça, c'est pour le Majestic. Attendez, c'est pas la peine de rester là. Oui.
Oui, il y a une moto avec eux. C'est une estafette, normalement.
Attention, les gars ont tiré dessus.
Oui. Ah, je crois qu'ils l'ont raté.
Allez. Ah oui, ils l'ont raté.
Les chars s'éloignent, les mitrailleuses sont toujours plaquées sur les maisons. L'avenue de nouveau est à peu près déserte maintenant.
Écoutez, ce sont des cloches.
Quoi? Des cloches?
Mais oui, c'est le bourdon de Notre-Dame.
C'est le bourdon de Notre-Dame, mais alors?
Ah mais oui.
Alors si les cloches sonnent, c'est que les alliés sont entrés dans Paris. Il est exactement 22h25.
Ah mais oui, on applaudit sur les Champs-Élysées.
On applaudit, ce sont donc les cloches de la libération.
attention, ça tire.
Il y a encore des Allemands ici.
Ce sont les cloches de la libération qui sonnent. Les Alliés ont franchi les portes de Paris. Il est exactement 22h25.
Vendredi, là-bas, place de l'Étoile, viennent d'apparaître les deux premiers chars alliés. Écoutez les acclamations, les gens courent et avec un synchronisme extraordinaire, bien réglé au même instant, un immense drapeau tricolore est déployé du haut de l'Arc de Triomphe par les pompiers de Paris.
C'est un moment d'enthousiasme indescriptible. Les gens se précipitent, entourent les chars qui descendent en longeant les maisons sur les bas-côtés pour se mettre à l'abri du canon de la Concorde.
Protégés par les feuillages des platanes qui sont très épais ici.
Descendez vite, mon vieux. Ils passent en ce moment juste devant le Fouquet. Ce sont des Français, oui, des marins. Oui, on les voit très bien. Une voiture de pompiers qui passe. Ils descendent vers nous. Voilà le premier. Il y a écrit Champagne. Le second, il y a écrit Franche-Comté. Bravo la marine, bravo les gars. Ils sont suivis d'une voiture légère qui s'arrête juste sous notre balcon. Bravo, bravo les gars! Le micro est branché en bas! Demandez-leur d'où ils viennent!
En tout cas, vous êtes les premiers à apparaître ici sur les Champs-Élysées comme Français. D'où venez-vous? Vous étiez mobilisé sur place en Afrique du
Nord? Oui, c'était mobilisé là-bas.
C'est la première fois que vous venez Paris?
Ah non, moi je connais Paris déjà.
Vous êtes parisien?
Je suis de la famille. Non, je ne suis pas parisien, je suis.
D'où êtes-vous?
Je suis Lorrain de Metz.
Comment vous appelez?
Lorrain.
Laurent, et vous et toi?
Signal,
de Brest.
Ignace?
Signal.
Oh, les Allemands viennent de tirer sur la foule qui entoure les chars depuis la place de la Concorde. On a senti le souffle de l'obus sur le visage. Oh, les gens se couchent, se cachent.
Capitaine! Le premier obus a fait sauter le bec de gaz, là. Le bec de gaz, là, que vous voyez. Alors ça devient comme ça.
Oui, ça venait de la place de la Concorde. Les Allemands viennent de tirer de là-bas sur la foule. Les gens sont couchés. Les bicycles sont abandonnées.
Les obus sont tirés. Les Allemands ont tiré de la place de la Concorde. Les gens, maintenant, sont couchés. Les gens sont couchés, ils se sont couchés d'ailleurs avec beaucoup de sang-froid au milieu de l'avenue Champs-Élysées. Il y a des bicyclettes abandonnées qui jonchent l'avenue.
Oui, il y a un pompier là-bas, vous voyez, le pompier, il est touché sûrement.
Il est touché, oui.
Il vient en moto.
Oh, c'est bien.
Ce camarade le traîne.
Sa jambe qui reste au milieu de la chaussée.
Et la jambe de ce pompier blessé qui reste au milieu de la chaussée.
Ah oui, il continue à tirer.
Ce camarade le traîne, il y a certainement des blessés et des morts.
Il y a des morts.
Regardez les brancardiers.
Voilà les brancardiers là-bas, vous voyez le prêtre?
Ils ont alors pas.
Ils agitent leur drapeau.
Un prêtre dans la soutane est toute couverte de poussière, ils agitent le drapeau de la
croix. Il continue à tirer, il n'arrête pas.
Regardez cette femme là, cette femme qui...
Oh, elle était ventrée.
Elle était ventrée, on ne peut pas décrire ça, c'est trop bas. Les salauds, regardez, ils tirent sur les brancardiers.
Les brancardiers se sont couchés, ils se relèvent, ils emmènent les blessés.
Il y a là, en bas, ici, là, des camarades, des pompiers, du pompier blessé qui a sauté sur un char, qui a pris un petit mitrailleur et des grenades et qui part maintenant à pied comme un autre direction de la Concorde.
Et regardez l'officier au milieu là-bas. Le midship là-bas.
L'officier du détachement.
Oh, il était battant.
Tranquillement, imperturbable, il amène au milieu de l'avenue échangée en inspectant la Concorde à la jumelle. Il nous fait signe de le mettre à la jumelle. Oui. Les chars français répondent et sont suivis maintenant par des sections de fantassins qui s'avancent vers la Concorde, à l'abri derrière eux, toujours en tirant. Et d'autres chars, à présent, descendent maintenant et les suivent.
Oui, il y en a un qui il y a le Timoun, celui-là c'est le Timoun, l'autre c'est le Sirocco.
Sur une civière, on emporte le pompier qui a été blessé grièvement tout à l'heure sur les Champs-Élysées et qui a laissé sa jambe au milieu de la rue. Il est mort, une carte d'identité est épinglée à sa vareuse. Il a 23-24 ans, une alliance brille à sa main.
C'est un spectacle très émouvant et en même temps glorieux. Il était tendu sur la civière, ses camarades ont amené une voiture. En ce moment, les infirmiers qui ont été tout à l'heure le ramasser sous les balles au milieu de l'avenue sont en train de le mettre dans l'ambulance. Il manque à l'homme une jambe, il est mort.
L'attaque de la Concorde est commencée, les Champs-Élysées sont libérés, il est 14h02. Samedi 26 août 1944, 15h toujours aux Champs-Élysées. Hier après-midi, les derniers points d'appui allemands dans Paris, les Tuileries, le ministère de la Marine, l'école militaire, le Majestic, de Luxembourg sont tombés. À 17h45, le général von Schollitz, commandant la garnison nazie, a capitulé.
La bataille de Paris tire à sa fin. La ville est tombée à des troupes de Leclerc et des Américains. Le gouvernement provisoire siège à l'hôtel de ville. Le général de Gaulle, qui est arrivé cette nuit, est en train de descendre en ce moment vers nous, venant de l'Arc de Triomphe.
Il est presque selon fait et on voit sa grande silhouette de la légendaire qui se détache au milieu de son escorte.
Il salue, on le voit les deux mains.
Il est à côté de civils, ce sont les
membres du procès de la résistance qui accompagnent en civil.
Alors la foule est joyeuse et est excitée parce que c'est une foule qui a vécu sur les nerfs pendant une semaine, qui a vu la bataille.
Oh, c'est un enthousiasme fou, on s'embrasse, on applaudit, on crie. Tenez, voilà Leclerc là-bas, le plus petit, en kaki.
Entouré de son état-major.
Il a l'air très ému, hein.
La vue est entièrement pavoisée, on a l'impression de marcher dans un drapeau déployé. Elle est pavoisée aux couleurs des alliés et jamais l'expression noire de monde n'a été aussi fausse.
Les femmes ont des coquards tricolores dans tous les cheveux, des petits drapeaux tricolores à la main.
Et elles sont en couleur claire, bleu, blanc, rouge, avec leurs blouses, leurs jupes, leurs robes. C'est gai, c'est extrêmement pimpant, c'est ensoleillé.
Il y a des gens jusque sur les toits.
Au milieu des pompiers, la haute azur, le service d'ordre, on voit briller leurs casques et ils sont au milieu de gens de leur kaki.
Les agents ont pris leurs uniformes, ils sont en tenue maintenant, ils portent un brassard tricolore.
Au-dessus de la foule, des avions alliés qui rasent les temps, ils prennent très bien leurs pilotes.
Oui, regardez, on les voit.
On les voit ainsi.
On les voit, ils nous font signe. Je ne sais pas, mon Dieu, ils nous font signe sur des vues places.
Tout le monde les salue de la main et ils répondent.
Pendant ce temps-là, le défilé continue, mêlé aux troupes régulières, les FFI, dans à pied et en voiture.
Avec leurs armes très sommaires, leur armement pris aux Allemands.
Oui, ils sont en civil.
Les FTP, là, les Français partisans. Toutes les classes de la société sont réunies, on voit des ouvriers, des employés, des
chefs. Et la police, les agents de police sont en train de défiler en tenue, ils sont extrêmement applaudis.
Les brancardiers.
Ah, des brancardiers, oui, des brancardiers à bicyclette, même précédés par un abbé.
Et pire, leur remorque, ils sont très applaudis parce qu'ils ont été magnifiques, nous l'avons souvent signalé. Voilà, voici la voiture des cheminots, la voiture de la SNCF qui sont très applaudis.
Oui, très applaudis. Les Espagnols, là, les soldats de la République espagnole avec une grande banderole. Qui tient toute la vue sur laquelle il y a écrit vive la France.
Maintenant, tout le monde a repris la place, la vie des Champs-Élysées est envahie, il y a une meute de cyclistes derrière, tout si chacun crie sa joie, on est content, ça fait 4 ans.
Attention aussi!
Mesdames,
mes chers auditeurs, la foule s'est couchée instantanément au milieu des Champs-Élysées. Les effectifs sont réfugiés derrière leurs voitures. Les passants, la foule s'est abritée derrière les voitures, derrière les arbres et dans les porches des maisons. Les coups de feu viennent des immeubles. Ce sont des cheveux, comme on dit, sont des francs-tireurs qui tirent des maisons.
La guerre des toits va durer encore quelques heures. La bataille de Paris est terminée. Et Pascal Coppeau tire pour nous la grande leçon qui s'en dégage.
Voilà, Paris est libre. Debout sur les barricades, la République est victorieuse. Des millions de combattants savent que la victoire n'était pas trop chère puisque Paris est libre. Merci, combattants de l'autre monde. Voici votre gai Paris, joyeux sous ses blessures. Merci, camarades de 1939. Voici votre jardin de France que nous avons entretenu depuis Dunkerque. Merci, petits frères de Bir Hakeim. À la porte d'Orléans, vous avez rencontré le peuple de France en guerre. Vous avez vu le Paris populaire de toutes les insurrections et l'ennemi est perdu puisqu'il a perdu Paris. Maintenant, les cloches de la libération appellent à d'autres tâches. Camarades de la résistance, la route est longue, il y a encore des ennemis à abattre. Écoutez, voici que le monde qui acclame Paris libéré se tait pour entendre la voix de la France.